Éthique, Spinoza, livre 5, de la proposition 13 à la proposition 35, comprise, fichier 18. Proposition 13. Plus il y a de choses auxquelles est jointe une image, plus souvent elle devient vive. Démonstration. Plus il y a de choses, en effet, auxquelles une image est jointe, plus, proposition 18, partie 2, il y a de causes pouvant l'exciter. CQFD. Proposition 14. L'âme peut faire en sorte que toutes les affections du corps, c'est-à-dire toutes les images des choses, se rapportent à l'idée de Dieu. Démonstration. Il n'est point d'affection du corps dont l'âme ne puisse former un concept clair et distinct. Proposition 4. Elle peut donc, proposition 15, partie 1, faire en sorte que toutes se rapportent à l'idée de Dieu. CQFD. Proposition 15. Qui se connaît lui-même et connaît ses affections clairement et distinctement, aime Dieu, et d'autant plus qu'il se connaît plus et qu'il connaît plus ses affections. Démonstration. Qui se connaît lui-même et connaît ses affections clairement et distinctement est joyeux. Proposition 53, partie 3. Et cela avec l'accompagnement de l'idée de Dieu. Proposition précédente. Et par suite, définition 6 des affections, il aime Dieu. Et pour la même raison, l'aime d'autant plus qu'il se connaît plus et connaît plus ses affections. CQFD. Proposition 16. Cet amour envers Dieu doit tenir dans l'âme la plus grande place. Démonstration. Cet amour, en effet, est joint à toutes les affections du corps, proposition 14, et alimenté par toutes, proposition 15, et par suite, proposition 11, il doit tenir dans l'âme la plus grande place, CQFD. Proposition 17. Dieu n'a point de passion et n'éprouve aucune affection de joie ou de tristesse. Démonstration. Toutes les idées, en tant qu'elles se rapportent à Dieu, sont vraies. Proposition 32, partie 2. C'est-à-dire, définition 4, partie 2, adéquate. Et ainsi, définition générale des affections, Dieu est sans passion. De plus, Dieu ne peut passer ni à une plus grande perfection, ni à une moindre. Corollaire 2 de la proposition 20, partie 1. Par suite, définition 2 et 3 des affections, il n'éprouve aucune affection de joie ni de tristesse. CQFD. Corollaire. Dieu, à parler proprement, n'a d'amour ni de haine pour personne. Car Dieu, proposition précédente, n'éprouve aucune affection de joie ni de tristesse, et conséquemment, définition 6 et 7 des affections, n'a d'amour ni de haine pour personne. Proposition 18. Nul ne peut avoir Dieu en haine. Démonstration. L'idée de Dieu qui est en nous est adéquate et parfaite. Proposition 46 et 47, partie 2. Par suite, dans la mesure où nous considérons Dieu, nous sommes actifs. Proposition 3, partie 3. Et en conséquence, proposition 59, partie 3, il ne peut y avoir de tristesse qu'accompagne l'idée de Dieu. C'est-à-dire, définition 7 des affections, nul ne peut avoir Dieu en haine. CQFD. Corollaire. L'amour envers Dieu ne peut se tourner en haine. Scoli. Quand nous concevons Dieu comme la cause de toute chose, peut-on objecter, nous considérons par cela même Dieu comme la cause de la tristesse. Je réponds que dans la mesure où nous connaissons les causes de la tristesse, elle cesse, proposition 3, d'être une passion, c'est-à-dire, proposition 59, partie 3, cesse d'être une tristesse. Et ainsi, dans la mesure où nous connaissons que Dieu est cause de la tristesse, nous sommes joyeux. Proposition 19. Qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l'aime à son tour. Démonstration. Si un homme faisait un tel effort, il désirerait donc, corollaire de la proposition 17, que Dieu, qu'il aime, ne fût pas Dieu, et par conséquent, proposition 19, partie 3, désirerait être contristé, ce qui, proposition 28, partie 3, est absurde. Donc, qui aime Dieu, etc., CQFD. Proposition 20. Cet amour envers Dieu ne peut être gâté ni par une affection d'envie, ni par une affection de jalousie. Mais il est d'autant plus alimenté que nous imaginons plus d'hommes joints à Dieu par le même lien d'amour. Démonstration. Cet amour envers Dieu est le bien suprême que nous pouvons appéter suivant le commandement de la raison. Proposition 28, partie 4. Il est commun à tous. Proposition 36, partie 4. Et nous désirons que tous s'en épanouissent. Proposition 37, partie 4. Et ainsi, définition 23 des affections, il ne peut être sali par une affection d'envie non plus. Proposition 18 et définition de la jalousie dans le scoli de la proposition 35, partie 3. Que de jalousie. Mais au contraire, proposition 31, partie 3, il doit être alimenté d'autant plus que nous imaginons que plus d'hommes s'en épanouissent. Scoli. Nous pouvons montrer, de la même manière, qu'il n'y a aucune affection directement contraire à cet amour, par laquelle cet amour puisse être détruit, et nous pouvons en conclure que cet amour envers Dieu est la plus constante des affections, et qu'en tant qu'il se rapporte au corps, il ne peut être détruit qu'avec ce corps lui-même. Plus tard, nous verrons de quelle nature il est, en tant qu'il se rapporte à l'âme seule. J'ai réuni dans les propositions précédentes tous les remèdes aux affections, c'est-à-dire tout ce que l'âme, considérée en elle seule, peut contre elle. Il apparaît par là que la puissance de l'âme sur les affections consiste, premièrement, dans la connaissance même des affections, voir scoli de la proposition 4. Deuxièmement, en ce qu'elle sépare les affections de la pensée d'une cause extérieure que nous imaginons confusément, voir proposition 2 avec le même scoli de la proposition 4. Troisièmement, dans le temps, grâce auquel les affections se rapportant à des choses que nous connaissons surmontent celles qui se rapportent à des choses dont nous avons une idée confuse ou mutilée, voir proposition 7. Quatrièmement, dans le grand nombre des causes par lesquelles les affections se rapportant aux propriétés communes des choses ou à Dieu sont alimentées, voir proposition 9 et 11. Cinquièmement, dans l'ordre enfin, où l'âme peut ordonner et enchaîner entre elles ses affections, voir scoli de la proposition 10, et en outre, les propositions 12, 13 et 14. Mais pour mieux connaître cette puissance de l'âme sur les affections, il faut noter avant tout que nous appelons grandes les affections quand nous comparons l'affection d'un homme avec celle d'un autre, et que nous voyons l'un dominer plus que l'autre par la même affection, ou quand nous comparons entre elles les affections d'un seul et même homme, et que nous le trouvons affecté ou ému par l'une plus que par l'autre. Car, proposition 5, partie 4, la force d'une affection quelconque se définit par la puissance de la cause extérieure, comparée à la nôtre. Or, la puissance de l'âme se définit par la connaissance seule, son impuissance ou sa passion par la seule privation de connaissance. C'est-à-dire, s'estime par ce qui fait que les idées sont dites inadéquates. D'où suit que cette âme est passive au plus haut point, dont les idées inadéquates constituent la plus grande partie, de façon que sa marque distinctive soit plutôt la passivité que l'activité qui est en elle. Et au contraire, cette âme est active au plus haut point, dont les idées adéquates constituent la plus grande partie, de façon que, tout en n'ayant pas moins d'idées inadéquates que la première, elle est sa marque distinctive, plutôt dans des idées adéquates, manifestant la vertu de l'homme, que dans des idées inadéquates, attestant son impuissance. Il faut noter de plus que les chagrins et les infortunes tirent leur principale origine d'un amour excessif pour une chose soumise à de nombreux changements, et que nous ne pouvons posséder entièrement. Nul, en effet, n'a de tourment ou d'anxiété qu'au sujet de ce qu'il aime, et les offenses, les soupçons ou les inimitiés ne naissent que de l'amour pour les choses dont personne ne peut réellement avoir la possession complète. Nous concevons facilement par là ce que peut, sur les affections, la connaissance claire et distincte, et principalement ce troisième genre de connaissance, voir à son sujet le scoli de la proposition 47, partie 2, dont le principe est la connaissance même de Dieu. Si en effet les affections, en tant qu'elles sont des passions, ne sont point par là absolument ôtées, voir proposition 3, avec le scoli de la proposition 4, il arrive du moins qu'elle constitue la moindre partie de l'âme, proposition 14. De plus, cette connaissance engendre un amour envers une chose immuable et éternelle, proposition 15, et dont la possession nous est réellement assurée, voir proposition 45, partie 2. Et conséquemment, cet amour ne peut être gâté par aucun des vices qui sont inhérents à l'amour ordinaire. Mais il peut devenir de plus en plus grand, proposition 15, et occuper la plus grande partie de l'âme, proposition 16, et l'affecter amplement. J'ai ainsi terminé ce qui concerne la vie présente. Chacun pourra voir facilement, en effet, ce que j'ai dit au commencement de ce scoli, à savoir que dans ce petit nombre de propositions, j'ai fait entrer tous les remèdes aux affections, pourvu qu'il y ait égard à ce qui est dit dans ce scoli, en même temps qu'aux définitions des affections, et enfin aux propositions 1 et 3 de la partie 3. Il est donc temps maintenant de passer à ce qui touche à la durée de l'âme sans relation avec l'existence du corps. Proposition 21. L'âme ne peut rien imaginer, et il ne lui souvient des choses passées que pendant la durée du corps. Démonstration. L'âme n'exprime l'existence actuelle de son corps et ne conçoit aussi comme actuelles les affections du corps que pendant la durée du corps. Corollaire de la proposition 8, partie 2. En conséquence, proposition 26, partie 2, elle ne conçoit aucun corps comme existant en acte que pendant la durée de son corps. Par suite, elle ne peut rien imaginer, voir la définition de l'imagination dans le scoli de la proposition 17, partie 2, et il ne lui peut souvenir des choses passées que pendant la durée du corps. Voir la définition de la mémoire dans le scoli de la proposition 18, partie 2. C'est QFD. Proposition 22. Une idée est toutefois nécessairement donnée en Dieu qui exprime l'essence de tel ou tel corps humain avec une sorte d'éternité. Démonstration. Dieu n'est pas seulement la cause de l'existence de tel ou tel corps humain, mais aussi de son essence. Proposition 25, partie 1. Laquelle doit être conçue nécessairement par le moyen de l'essence même de Dieu. Axiome 4, partie 1. Et cela avec une nécessité éternelle. Proposition 16, partie 1. Ce concept doit donc être nécessairement donné en Dieu. Proposition 3, partie 2. CQFD. Proposition 23. L'âme humaine ne peut être entièrement détruite avec le corps, mais il reste d'elle quelque chose qui est éternel. Démonstration. Un concept ou une idée est nécessairement donné en Dieu qui exprime l'essence du corps humain. Proposition précédente. Et ce concept est, par suite, quelque chose qui appartient nécessairement à l'essence de l'âme humaine. Proposition 13, partie 2. Mais nous n'attribuons à l'âme humaine aucune durée pouvant se définir par le temps, sinon en tant qu'elle exprime l'essence actuelle du corps, laquelle s'explique par la durée et peut se définir par le temps. Autrement dit, corollaire proposition 8, partie 2, nous n'attribuons la durée à l'âme elle-même que pendant la durée du corps. Comme cependant ce qui est conçu avec une éternelle nécessité, en vertu de l'essence même de Dieu, est, proposition précédente, néanmoins quelque chose, ce sera nécessairement quelque chose d'éternel qui appartient à l'essence de l'âme. CQFD. Scoli. Comme nous l'avons dit, cette idée qui exprime l'essence du corps avec une sorte d'éternité est un certain mode du penser qui appartient à l'essence de l'âme et qui est éternel. Il est impossible cependant qu'il nous souvienne d'avoir existé avant le corps, puisqu'il ne peut y avoir dans le corps aucun vestige de cette existence et que l'éternité ne peut se définir par le temps ni avoir aucune relation au temps. Nous sentons néanmoins et nous savons par expérience que nous sommes éternels, car l'âme ne sent pas moins ces choses qu'elle conçoit par un acte de l'entendement que celles qu'elle a dans la mémoire. Les yeux de l'âme, par lesquels elle voit et observe les choses, sont les démonstrations elles-mêmes. Bien que, donc, ils ne nous souviennent pas d'avoir existé avant le corps, nous sentons cependant que notre âme, en tant qu'elle enveloppe l'essence du corps avec une sorte d'éternité, est éternelle, et que cette existence de l'âme ne peut se définir par le temps ou s'expliquer par la durée. L'âme, donc, ne peut être dite durée, et son existence ne peut se définir par un temps déterminé qu'en tant qu'elle enveloppe l'existence actuelle du corps. Et dans cette mesure seulement, elle a la puissance de déterminer temporellement l'existence des choses et de les concevoir dans la durée. Proposition 24. Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu. Démonstration. Cela est évident par le corollaire de la proposition 25, partie 1. Proposition 25. Le suprême effort de l'âme et sa suprême vertu est de connaître les choses par le troisième genre de connaissance. Démonstration. Le troisième genre de connaissance va de l'idée adéquate de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses, voire la définition de ce genre de connaissance dans le Scoli 2 de la proposition 40, partie 2. Et plus nous connaissons les choses de cette manière, plus, proposition précédente, nous connaissons Dieu. Par suite, proposition 28, partie 4, la suprême vertu de l'âme, c'est-à-dire, définition 8, partie 4, la puissance ou la nature de l'âme, ou ce qui revient au même, proposition 7, partie 3, son suprême effort, est de connaître les choses par le troisième genre de connaissance. CQFD. Proposition 26. Plus l'âme est apte à connaître les choses par le troisième genre de connaissance, plus elle désire connaître les choses par ce genre de connaissance. Démonstration. Cela est évident, dans la mesure en effet où nous concevons que l'âme est apte à connaître les choses par ce genre de connaissance, nous la concevons comme déterminée à les connaître par ce genre de connaissance. Et en conséquence, définition 1 des affects, plus l'âme y est apte, plus elle le désire. C'est QFD. Proposition 27. De ce troisième genre de connaissance naît le contentement de l'âme le plus élevé qu'il puisse y avoir. Démonstration. La suprême vertu de l'âme est de connaître Dieu. Proposition 28, partie 4. C'est-à-dire de connaître les choses par le troisième genre de connaissance. Proposition 25. Et cette vertu est d'autant plus grande que l'âme connaît plus les choses par ce genre de connaissance. Proposition 24. Qui donc connaît les choses par ce genre de connaissance, il passe à la plus haute perfection humaine, et en conséquence, il est affecté de la joie la plus haute. Définition 2 des affections. Et cela, proposition 43, partie 2, avec l'accompagnement de l'idée de lui-même et de sa propre vertu. Et par suite, définition 25 des affections, de ce genre de connaissance, naît le contentement le plus élevé qu'il puisse y avoir. C'est QFD. Proposition 28. L'effort ou le désir de connaître les choses par le troisième genre de connaissance ne peut naître du premier genre de connaissance, mais bien du deuxième. Démonstration. Cette proposition est évidente par elle-même. Tout ce, en effet, que nous connaissons clairement et distinctement, nous le connaissons ou par soi ou par quelque autre chose qui est conçue par soi. Autrement dit, les idées qui sont en nous claires et distinctes, celles qui se rapportent au troisième genre de connaissance, Scoli 2 de la proposition 40, partie 2, ne peuvent provenir d'idées mutilées et confuses se rapportant au premier genre de connaissance, mais proviennent d'idées adéquates, c'est-à-dire, même Scoli, du second et du troisième genre de connaissance. Et par suite, définition 1 des affections, le désir de connaître les choses par le troisième genre de connaissance ne peut naître du premier, mais bien du second. C'est QFD. Proposition 29. Tout ce que l'âme connaît, comme ayant une sorte d'éternité. Elle le connaît non parce qu'elle conçoit l'existence actuelle présente du corps, mais parce qu'elle conçoit l'essence du corps avec une sorte d'éternité. Démonstration. Entend seulement que l'âme conçoit l'existence présente de son corps. Elle conçoit la durée qui peut se déterminer par le temps et a le pouvoir de concevoir les choses avec une relation au temps. Proposition 21 ci-dessus et proposition 26 partie 2. Or, l'éternité ne peut s'expliquer par la durée. Définition 8 partie 1 et son explication. Donc, l'âme n'a pas, en tant qu'elle conçoit l'existence présente de son corps, le pouvoir de concevoir les choses comme ayant une sorte d'éternité. Mais, puisqu'il est de la nature de la raison de concevoir les choses avec une sorte d'éternité, corollaire 2 de la proposition 44, partie 2, et qu'il appartient à la nature de l'âme de concevoir l'essence du corps avec une sorte d'éternité, proposition 23, n'y ayant, en dehors de ces deux manières de concevoir les corps, rien qui appartienne à l'essence de l'âme, proposition 13, partie 2, cette puissance de concevoir les choses avec une sorte d'éternité n'appartient donc à l'âme qu'en tant qu'elle conçoit l'essence du corps avec une sorte d'éternité. C'est QFD. Les choses sont conçues par nous comme actuelles en deux manières, ou bien en tant que nous en concevons l'existence avec une relation à un temps et à un lieu déterminé, ou bien en tant que nous les concevons comme contenues en Dieu et comme suivant de la nécessité de la nature divine. Celles qui sont conçues comme vraies ou réelles de cette seconde manière, nous les concevons avec une sorte d'éternité, et leurs idées enveloppent l'essence éternelle et infinie de Dieu, comme nous l'avons montré, proposition 45, partie 2, dont on verra le scoli. Proposition 30. Notre âme, dans la mesure où elle se connaît elle-même et connaît le corps comme des choses ayant une sorte d'éternité, a nécessairement la connaissance de Dieu et sait qu'elle est en Dieu et se conçoit par Dieu. Démonstration. L'éternité est l'essence même de Dieu en tant qu'elle enveloppe l'existence nécessaire. Définition 8, partie 1. Concevoir les choses avec une sorte d'éternité, c'est donc concevoir les choses en tant qu'elles se conçoivent comme être réelles par l'essence de Dieu. C'est-à-dire en tant qu'en vertu de l'essence de Dieu, elles enveloppent l'existence. Et ainsi, notre âme, en tant qu'elle se conçoit elle-même et conçoit les choses avec une sorte d'éternité, a nécessairement la connaissance de Dieu et sait, etc., c'est QFD. Proposition 31. Le troisième genre de connaissance dépend de l'âme comme de sa cause formelle, en tant que l'âme est elle-même éternelle. Démonstration. L'âme ne conçoit rien comme ayant une sorte d'éternité, si ce n'est en tant qu'elle conçoit l'essence de son corps avec une sorte d'éternité. C'est-à-dire, proposition 21 et 23, en tant qu'elle est éternelle. Et ainsi, proposition précédente, en tant qu'elle est éternelle, elle a la connaissance de Dieu. Et cette connaissance est nécessairement adéquate. Proposition 46, partie 2. Par suite, l'âme, en tant qu'elle est éternelle, est apte à connaître tout ce qui peut suivre de cette connaissance de Dieu supposée donnée. Proposition 40, partie 2. C'est-à-dire, à connaître les choses par ce troisième genre de connaissance, voir sa définition dans le scoli 2 de la proposition 40, partie 2. Dont l'âme est ainsi, définition 1, partie 3, en tant qu'elle est éternelle, la cause adéquate, c'est-à-dire formelle. C'est QFD. Scoli. Plus haut chacun s'élève dans ce genre de connaissance, mieux il est conscient de lui-même et de Dieu, c'est-à-dire plus il est parfait et possède la béatitude, ce qui se verra encore plus clairement par les propositions suivantes. Mais il faut noter ici que, tout en étant dès à présent certain que l'âme est éternelle en tant qu'elle conçoit les choses avec une sorte d'éternité, afin d'expliquer plus facilement et de faire mieux connaître ce que nous voulons montrer, nous la considérerons toujours, ainsi que nous l'avons fait jusqu'ici, comme si elle commençait seulement d'être et de concevoir les choses avec une sorte d'éternité, ce qu'il nous est permis de faire sans aucun danger d'erreur, pourvu que nous ayons la précaution de ne rien conclure que de prémices clairement perçues. Proposition 32. À tout ce que nous connaissons par le troisième genre de connaissance, nous prenons plaisir, et cela avec l'accompagnement comme cause de l'idée de Dieu. Démonstration. De ce genre de connaissance naît le contentement de l'âme le plus élevé qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire la joie la plus haute, définition 25 des affections, et cela avec l'accompagnement comme cause de l'idée de soi-même. proposition 27, et conséquemment aussi de l'idée de Dieu, proposition 30, CQFD. Corollaire. Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un amour intellectuel de Dieu, car de ce troisième genre de connaissance, proposition précédente, naît une joie qu'accompagne comme cause l'idée de Dieu, c'est-à-dire, définition 6 des affections, l'amour de Dieu, non en tant que nous l'imaginons comme présent, proposition 29, mais en tant que nous concevons que Dieu est éternel, et c'est là ce que j'appelle amour intellectuel de Dieu. Proposition 33. L'amour intellectuel de Dieu, qui naît du troisième genre de connaissance, est éternel. Démonstration. Le troisième genre de connaissance, proposition 31 et axiome 3 partie 1, est éternel. Par suite, même axiome partie 1, l'amour qui en est est lui-même aussi éternel. C'est QFD. Scoli. Bien que cet amour de Dieu n'ait pas eu de commencement, proposition précédente, il a cependant toutes les perfections de l'amour, comme s'il avait pris naissance, ainsi que nous le supposons fictivement dans le corollaire de la proposition précédente. Et cela ne fait aucune différence, sinon que l'âme possède éternellement ces perfections que nous supposions qui s'ajoutaient à elle, et cela avec l'accompagnement de l'idée de Dieu comme cause éternelle. Que si la joie consiste dans un passage à une perfection plus grande, la béatitude, certes, doit consister en ce que l'âme est douée de la perfection elle-même. Proposition 34. L'âme n'est soumise que pendant la durée du corps aux affections qui sont des passions. Démonstration. Une imagination est une idée par laquelle l'âme considère une chose comme présente. Voir sa définition dans le scoli de la proposition 17, partie 2. Et elle indique cependant plutôt l'état présent du corps humain que la nature de la chose extérieure. Corollaire de la proposition 16, partie 2. Une affection est donc une imagination. Définition générale des affections, en tant qu'elle indique l'état présent du corps, et ainsi, proposition 21, l'âme n'est soumise que pendant la durée du corps aux affections qui se ramènent à des passions. CQFD. Corollaire. Il suit de là que nul amour, sauf l'amour intellectuel, n'est éternel. Scoli. Si nous avons égard à l'opinion commune des hommes, nous verrons qu'ils ont conscience, à la vérité, de l'éternité de leur âme, mais qu'ils la confondent avec la durée et l'attribuent à l'imagination ou à la mémoire qu'ils croient subsister après la mort. Proposition 35. Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini. Démonstration. Dieu est absolument infini, définition 6, partie 1, c'est-à-dire, définition 6, partie 2, la nature de Dieu s'épanouit en une perfection infinie, et cela, proposition 3, partie 2, avec l'accompagnement de l'idée de lui-même, c'est-à-dire, proposition 11 et définition 1, partie 1, de l'idée de sa propre cause. Et c'est là ce que nous avons dit dans le corollaire de la proposition 32, être l'amour intellectuel.